Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à tous. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, s'est ouvert devant la cour d'assises de Paris le procès des attentats du 13 novembre. On l'a déjà dit, il s'agit d'un procès hors norme, dans les annales de la justice d'abord, bien sûr, étant donné la magnitude des attaques perpétrées par l'organisation État islamique ce jour-là, qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés, pour beaucoup à vie, mais hors norme aussi comme événement judiciaire. 9 mois d'audience, soit 140 jours, une salle construite à l'intérieur du palais spécialement pour ce procès, un procès filmé pour l'histoire, près de 1800 participants civils, 330 avocats, des centaines de journalistes qui vont examiner le résultat d'une instruction menée par 5 juges enquêteurs qui aura duré 4 ans et dont le volume de documents atteint 542 tomes, soit un peu plus de 47 000 procès-verbaux, lesquels, empilés l'un sur l'autre, atteindraient 53 mètres de haut. On est chez Kafka. Comment fait-on entrer cette hors norme dans la norme du récit journalistique ou judiciaire? Comment la société s'empare-t-elle d'un événement comme ça? Qu'y a-t-il de si spécifique dans le fait terroriste qui rend son appréhension par la société si difficile? Pour essayer de réfléchir à cette question en trois petits quarts d'heure aujourd'hui, Sylvie Lidberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-auteur avec Annette Viviorca de l'ouvrage collectif Le Moment Eichmann, consacré au procès Eichmann. Plus récemment, en avril dernier, vous avez écrit Nuremberg, La bataille des images, chez Payot, qui analysait la mise en scène en récit et en images du procès Nuremberg. Et vous êtes membre du groupe de recherche V13 sur les archives audiovisuelles du procès actuel des attentats du 13 novembre. Soren Silo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, vous êtes spécialiste des questions de terrorisme, vous suivez le procès en ce moment, bien sûr. Vous êtes aussi co-auteur aux éditions des Arènes, pardon, du livre graphique La Cellule, enquête sur les attentats du 13 novembre 2015, avec Kevin Jackson et Nicolas Otero. Et enfin, Uri Eisenzweig, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez par téléphone depuis les États-Unis. Vous êtes professeur de littérature à l'université de Rutgers. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Le récit impossible, Naissance littéraire du fascisme, et en particulier, c'est la raison de votre présence dans cette émission, et c'est là, on fête aussi cette année, en plus du 11 septembre, on fête aussi les 20 ans de la sortie de votre livre Fiction de l'anarchisme, qui a été publié en 2001, et qui s'intéresse à la vague d'attentats des années 1892-1894 à Paris, mais qui est étonnamment prescient sur aujourd'hui. Je voudrais tout de suite, avant de commencer l'émission, enfin en introduction, en citer un extrait. Vous parlez donc de la vague d'attentats des années 1890 qui a été attribuée aux anarchistes, qui frappaient aveuglément, entre autres choses, des terrasses de café, et vous écrivez ceci. On a d'une part l'espace a priori transparent d'une information apparemment globale et quasi immédiate, et de l'autre, l'opacité propre à un événement sans finalité apparente, sans origine définie. D'où une tension, à l'opposé de ce que l'on voit d'habitude comme une complicité, l'univers médiatique ne pouvant pas accepter tout simplement l'idée d'un acte sans auteur, d'une violence sans signification, puisque sa vocation première est justement de révéler ce qui a été caché. En ce sens, si le terrorisme peut effectivement paraître un objet privilégié de la presse moderne, c'est du fait qu'il suscite l'activité narrative de celle-ci, et non pas en s'y prêtant, mais en lui résistant. Et c'est cette résistance qui fait spectacle. Donc il s'agit d'un spectacle étonnamment paradoxal, où l'événement en quelque sorte, résiste à sa narration. Et voilà, on va essayer d'évoquer ces questions-là autant qu'on le pourra en trois quarts d'heure. D'abord sur le procès lui-même, Soren Silo, vous y êtes tous les jours. On parlait avant de commencer de l'attitude du président et de sa manière de ramener l'événement à une dimension normale, contrairement à ce qu'on a pu voir sur les autres procès, par exemple comme Charlie Hebdo. Là, il y a une forme de maintien. En tout cas pour l'instant, des auditions qui permet de cadrer les choses apparemment.
Oui, alors je dirais pas que le procès de Charlie Hebdo était hors contrôle, et d'ailleurs l'ai pas couvert, donc je commenterai pas. Mais en effet, à l'ouverture de ce procès, en fait, le président Jean-Louis Périas a tenu à faire un propos en préambule, disant qu'en effet, c'était un procès hors norme, mais que le principe même d'un procès d'assises était de rentrer dans la norme judiciaire, dans la norme de l'état de droit. Et donc, en effet, on observe depuis cette grande, grosse semaine, une dizaine de jours qu'a commencé ce procès, qu'il tient les débats dans une forme de normalité qui est à la fois très, très, très plaisante, très surprenante, et dont on sent qu'elle va permettre à ce procès de se dérouler et de rendre la justice dans des conditions satisfaisantes.
Sylvie Littberg, vous suivez le procès ou vous intéressez à la manière dont il est filmé, en fait, dans votre groupe de recherche?
Oui, alors le groupe de recherche est constitué d'une dizaine de représentants de disciplines comme la philosophie, le droit, la sociologie. Et moi, je suis là un petit peu de manière un peu plus marginale pour réfléchir au filmage de ce procès dans le cadre de la loi Badinter. Et ce qui est tout à fait nouveau, c'est que moi j'ai travaillé sur des procès évidemment beaucoup plus anciens, essentiellement donc Nuremberg et Eichmann, mais aussi les procès soviétiques. Et là évidemment j'ai la chance et l'opportunité de voir devant moi se constituer l'archive du procès et de me trouver dans la salle et de voir évidemment tout ce qui est retenu par l'image, mais aussi tout ce qui figure dans le hors-champ. Donc de ce point de vue-là, c'est une expérience très riche et assez fascinante.
Mais l'idée de filmer les procès avait été prise, la loi autorisant le filmage de procès d'exception avait été prise par Badinter au moment du procès Barbie, si je me souviens bien. Donc il y avait cette dimension historique. Là, on a quelque chose de beaucoup plus bâtard, si je puis dire. C'est un événement à la fois historique, mais qui n'est pas un événement militaire. On n'a pas de grands acteurs de l'histoire comme Barbie, comme Papon, sans parler de Nuremberg, évidemment. On a des gens qu'on pourrait dire paumés, quoi. La réflexion du président renvoyant Salah Abdeslam à son statut de travailleur intérimaire quand il essaye de se présenter comme un soldat de l'État islamique, par exemple, indique tout le hiatus entre ce qui est à la fois un événement et en même temps quelque chose de déceptif d'une certaine façon, non?
Bon, alors d'abord il faut rappeler que les procès ont été filmés avant la loi Badinter et jusqu'en 1954 pour les actualités. Et elles avaient vraiment cette fonction, étaient filmées en muet, mais les grands procès médiatiques, les grandes affaires criminelles de l'époque. Et la loi Badinter, elle réautorise 30 ans après la présence des caméras dans le prétoire, mais véritablement là pour le coup dans une visée anti-spectacle pour constituer des archives pour l'histoire et pour l'histoire de la justice. Et dans ce cadre-là, la définition de ce qu'on peut ou non filmer peut être plus large, puisque on peut aussi imaginer filmer la justice ordinaire et constituer ainsi des archives de la justice. Mais dans les faits, on a pour l'essentiel filmé des procès qui avaient des procès qui avaient un lien au passé, donc à celui de la Seconde Guerre mondiale, avec les procès Barbie, Pouviet, Papon, mais aussi des procès qui ont marqué par leur capacité à faire événement, ou en tout cas jugeant des crimes, des délits qui ont fait événement, et ça peut être aussi des événements politiques. Je pense à l'affaire aussi du sang contaminé. Ce procès a été filmé, comme celui d'Azedef également. Donc, on est néanmoins dans des procès qui ne relèvent pas de la justice ordinaire. De ce point de vue-là, c'est tout à fait certain. Aujourd'hui, là où il y a une autre perspective d'ouvrir à ce quotidien de la justice, mais on ne sait pas ce que ça donnera.
Alors, et c'est toute la question pourquoi est-ce que un procès sur le terrorisme n'est pas un procès ordinaire? Oui, Agenzweig, dans les fictions de l'anarchisme, vous rappelez que il y a un problème de définition légale du terrorisme. Vous citez Walter Laqueur qui dit il n'y a pas d'événement terroriste, il n'y a que des communiqués et des titres. En quoi l'acte terroriste distingue-t-il d'infractions de droit commun déjà connues? En rien, en fait, puisque ce sont des gens qui tuent ou qui détruisent, d'où le débat politique. Les terroristes sont-ils ou non des criminels comme les autres? Et un procès pour terrorisme peut-il être un procès comme les autres?
Oui, je reprendrai le mot que vous avez utilisé avant, hiatus. Je crois que il y a un hiatus dans tous ces procès, et celui-ci aussi, je crois, entre les personnages qui deviennent de plus en plus expliqués, qui sont éclairés par le procès ou par exemple, des articles comme ceux de Søren Cello dans Le Monde, mm-hmm. où on les comprend, et plus on les comprend, en fait, moins on peut parler de terrorisme. Le terrorisme est un phénomène nouveau qui, en fait, qui est défini par l'illisibilité de l'acte. Mmh. La gratuité de la violence fait de l'acte quelque chose d'incompréhensible, d'illisible, qui fait désordre au sein du temps, de l'espace, et ne peut pas être inscrit dans un récit par définition. Donc plus on le raconte, en fait, plus on banalise d'un certain point de vue.
Plus on le raconte et moins on le saisit, en quelque sorte.
Oui, plus on perd la spécificité terroriste, qui est évidemment une spécificité de perception, non pas tellement d'existence. L'effet, et c'est le problème de la loi. La loi a toujours eu des problèmes avec le terrorisme. Depuis les lois scélérates de 1893-14, où le fait même qu'on ne puisse pas parler de... Je veux dire, dès qu'on a vu les auteurs des attentats de cette époque, depuis Ravachol jusqu'à Émile Henry, la plupart étaient des personnages perdus, paumés ou criminels comme Ravachol, qui finalement a été condamné d'ailleurs pour d'autres choses que pour ses actes dits terroristes. Plus on explique, et plus effectivement on comprend, plus l'affaire devient une affaire criminelle, je ne dis pas banale, mais qui n'est pas terroriste spécifiquement. Il y a un problème du terrorisme qui est un concept contradictoire. Mmh. Et qui, donc, évidemment, qui est très, très attirant, comme vous l'avez dit, pour la presse, dont le rôle est de raconter, de rendre la réalité transparente, comprise. Et le terrorisme, justement, résiste en tant que terrorisme. Mmh, mmh. C'est-à-dire, les auteurs des attentats, on les arrête, on les comprend, on les explique, et, les articles du Monde et d'autres ont très très bien expliqué, par exemple, ces criminels-là. Mais en quoi sont-ils terroristes? Il y a ici une contradiction.
Søren Cello, vous avez publié, vous publiez en ce moment plutôt La Cellule avec Kevin Jackson et Nicolas Otero, qui est un livre graphique qui raconte l'histoire de l'enquête sur les attentats du 13 novembre, pas l'histoire de La Cellule elle-même, mais l'histoire de l'enquête, en fait. Et donc, effectivement, vous le racontez et on suit pas à pas, et en fait, vous reconnaissez dans ce que vient de dire Uri Eisenberg, c'est-à-dire de vous reconnaître cette question d'une sorte de... Il y a quelque chose qui échappe, on retrouve le parcours des gens, mais un peu comme dans l'histoire du nazisme, en fin de compte, quelque chose, quand on a mis bout à bout tous les éléments, on n'arrive pas à la totalité, on ne comprend pas, il reste un hiatus entre ce que font le parcours de ces gens et l'acte qui laisse et la sidération de l'acte lui-même, non ?
Oui, il y a évidemment quelque chose qui se dérobe inévitablement, qui est le mystère vertigineux du passage à l'acte, de la mise à mort aveugle, puisque le principe du terrorisme, notamment, bon, on le voit sur le 13 novembre, le Bataclan, c'est que les victimes ne sont pas choisies pour elles-mêmes, mais en tant que cible métonymique d'un ensemble plus grand, qu'est la structure qu'on veut attaquer, structure collective, qui peut être la population française ou l'État français plus loin. Mais bon, ce qui est paradoxal dans le terrorisme, c'est que le terrorisme est consubstantiel de sa narration et de sa médiatisation. Le terrorisme contemporain est apparu avec la presse à grande diffusion et depuis la prise d'otage des JO de Munich. Voilà, c'était la première prise d'otage en mondiovision, etc. Donc le terrorisme, enfin, ça a été déjà théorisé, fait en fait une prise de judo aux sociétés occidentales en retournant contre ces sociétés leurs outils de communication. Donc le journaliste est un allié, est un peu un idiot utile du terroriste. Et donc c'est dans la narration d'un acte terroriste, de sa commission jusqu'à son procès, les médias se posent en permanence la question de savoir jusqu'où ils jouent le jeu du message, puisque un attentat qui n'est pas médiatisé n'est pas un attentat, c'est un meurtre. Donc personne ne parlera. Ce qui fait l'onde de choc d'un attentat, c'est qu'il est médiatisé, c'est que son impact psychique est beaucoup plus important que son impact physique, qui, elle, est, du point de vue du terroriste, dérisoire, qui n'existe pas. Donc, évidemment, dans le traitement, dans la narration qu'on fait en temps réel, puis après coup, des attentats terroristes, des cellules terroristes, des organisations terroristes, il y a toujours une jauge à trouver sur qu'est-ce qui doit être restitué pour la connaissance collective, pour que la mémoire collective se soude autour d'un événement historique qui doit être partagé, puisque, et en même temps, comment ne pas rentrer, évidemment, dans le jeu du message terroriste.
Alors, c'est une question qui se pose très concrètement, parce que, d'un côté, on a la concentration de la presse sur la parole des victimes. On s'en est plein au moment du procès de Charlie Hebdo et au moment aussi du procès de la famille Mera, parce que les tueurs étant morts ou absents, on n'avait guère que la parole des victimes à laquelle se raccrocher, et donc il y a une emphase de la parole victimaire dans certains cas. Là, c'est pour l'instant le contraire. On a Salah Abdeslam qui parle, et donc la question se pose de savoir comment le faire parler dans la presse, jusqu'où retranscrire ce qu'il dit et se faire l'écho de sa propagande. Donc il y a tout de suite un problème de dosage de ce qui peut être dit ou non dit. Vous avez dit quelque chose d'important. Un attentat non médiatisé n'est qu'un meurtre. Donc le média est directement partie prenante de la machine terroriste.
Oui, complètement. C'est ce qui a été décrit en effet comme une prise de judo. C'est-à-dire qu'on retourne les médias occidentaux, si c'est un pays occidental qui est visé, contre lui-même pour propager le message terroriste. Mais la singularité de ce procès, celui des attentats du 13 novembre, c'est qu'à la différence du procès des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, ou du procès Mera, on a des auteurs directs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Salah Abdeslam, c'est quand même important. Il y a 6 accusés dans le box, sur 14, donc près de la moitié, qui étaient candidats à une opération martyre. Donc leur parole n'a évidemment pas le même poids qu'un second couteau qui a vendu une voiture, voire une Kalachnikov, à quelqu'un dont il ne connaissait pas l'usage final. Donc là, par cet aspect, c'est un procès historique, parce que ce sera le procès de l'État islamique. Mmh. Et au-delà des 14 accusés qui sont dans le box, il y en a 6 qui sont jugés en absence, dont des hauts cadres de l'État islamique, le commanditaire des attentats du 13 novembre. Donc ce sont des personnages importants dont on parlera beaucoup pendant ce procès, même s'ils ne sont pas présents physiquement parce qu'ils sont présumés morts, mais on en parlera beaucoup. Donc il y a quand même une dimension historique à ce procès, je pense, au-delà du profil des accusés qui sont présents.
Oui, Eisenzweig, sur cette dimension médiatique, vous en parlez pas mal dans les fictions de l'anarchisme. Walter Benjamin l'avait déjà relevé dans son livre sur Baudelaire. C'est dans la seconde moitié du 19e siècle que à la fois les complots et les attentats commencent à la notion de complot grandit à mesure que les médias se développent. C'est la fondation des journaux comme Le Matin, le Petit Journal, Le Petit Parisien sont tous créés entre les années 1870 et 1890. Et dans les années 70, évidemment, la prise d'otage et le massacre des athlètes israéliens au JO de Munich en 73, la cible est choisie parce que c'est le premier événement où convergent tous les médias internationaux. C'est le premier événement mondialement médiatisé. Idem pour le 11 septembre, il y avait des caméras braquées en permanence sur le World Trade Center, sur le World Trade Center, et évidemment on a le développement d'Internet à l'époque qui fait miroir en quelque sorte au développement de la presse à la fin du 19e siècle. Mais ce que vous dites, vous, c'est que c'est le passage que je citais tout à l'heure en commençant, c'est que cette participation de la presse au terrorisme, elle est paradoxale. C'est-à-dire que c'est parce que le terrorisme ne peut pas être élucidé qu'il devient une sorte de producteur de discours.
Oui. Ce à quoi j'objecterais, c'est l'idée de la prise de judo, c'est-à-dire l'utilisation de la presse par ces actes criminels. Non, c'est certainement vrai, sauf que je regarde ça sur un plan historique. Et comme vous dites, je vois effectivement la presse qui devient une presse d'information. En fait, le premier journal à l'américaine s'est créé en 1885. Mm-hmm. Et donc, l'ère des attentats, les années 1892-94, les bombes ont un rapport direct avec, je vois une coïncidence qui est significative. Je ne dirais pas que les poseurs de bombes aient utilisé ou même pensé aux médias. Je vois simplement une coïncidence historique où effectivement, c'est vrai, qui sont médiatisés et que c'est dans la mesure, d'ailleurs, les bombes qui éclatent, il n'y en a pas tant, mais il y en a quand même plus d'une quinzaine entre 92 et 94, elles ne font du bruit que par la presse. Il y a très peu de gens qui les entendent. C'est vraiment la presse qui crée une sorte de théâtre. Paris devient une sorte de salle de théâtre, une caisse de résonance où on entend les bombes et on est paniqué. C'est le terrorisme dans la mesure où il y a la terreur, il y a un mouvement de panique entre 92 et 94 avec des titres énormes dans les journaux. Dès la première bombe qui éclate, et que personne n'a entendu d'ailleurs, en mars 1800 ou en février 1892, et qui n'a fait aucun blessé, qui a détruit une porte, et qui fait des titres incroyables, où il y aura effectivement la panique qui va se créer autour de cette possibilité d'une série d'attentats qui va... Parce que la série est très importante dans le terrorisme.
Mmh.
Les médias vont créer à ce moment-là justement des auteurs d'attentats qui sont supposément, c'est pas eux, mais les anarchistes. Et la figure de l'anarchiste va devenir la figure dans le récit, fictif de ce qui s'est passé. Ce sera d'ailleurs, l'anarchiste deviendra masqué à l'Azero. Mmh. Et les images de l'anarchiste masqué, cachant sous sa cape une bombe, etc., ça va devenir un stéréotype de la représentation populaire de l'anarchisme. Jusque, si vous vous souvenez, dans Tintin, dans L'Oreille Cassée, on voit une sorte d'anarchiste rigolo. Mmh. C'est une création des médias. Je ne dis pas que les médias ne représentent pas les faits. Je parle de la spécificité terroriste qui disparaît. Mmh. Et tout ce que Soren Cello vient de décrire est absolument essentiel, sauf que le concept du terrorisme disparaît. Il aurait pu décrire tout cela sans utiliser le mot terrorisme. Mmh,
mmh, mmh. Soren Cello ?
Oui, non, c'est juste un exemple qui me revenait en mémoire pour illustrer cette consubstantialité entre le terrorisme et sa médiatisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en décembre 2015, donc on est deux mois après les attentats du 13 novembre, pendant une journée entière, les chaînes d'info en continu, mais y compris les sites d'information dont le mien, relatent un attentat terroriste dans une école. Un professeur a raconté qu'il avait été attaqué par un djihadiste qui crée la Wakbar pour la Syrie, qu'il aurait égorgé dans une salle de classe, etc. Enfin, qu'on aurait tenté de l'égorger dans une salle de classe. Et au fil des heures, et toutes les chaînes ont continué, était attentat dans une école. Il se trouve que l'État islamique venait de diffuser un message menaçant les écoles de France, etc. Et la psychose, c'est deux mois après l'attentat du Trianon, la psychose s'est de nouveau installée dans le pays, sauf qu'au fil des heures, le parquet antiterroriste s'était saisi, et au fil des heures, les enquêteurs se sont rendus compte que ce professeur avait complètement affabulé et qu'il ne s'était strictement rien passé dans cette école. Mais la France avait vécu un nouvel attentat pendant 12 heures. Mmh. Donc c'était l'attentat parfait. Mmh. Pas de mort, mais la terreur.
Mmh. Mmh. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que dit aussi Joseph Conrad, que vous citez dans Soren Cello. Oui, Eisenzweig, dans votre livre, dans l'agent secret, Joseph Conrad imagine un attentat et il dit quelque chose comme ça. Il dit, pour qu'un attentat ait une influence quelconque sur l'opinion publique aujourd'hui, il faut qu'il aille au-delà des intentions. Il faut qu'il soit purement destructeur. L'attentat idéal, c'est l'étalage le plus inquiétant d'imbécilité féroce. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui se passe du tout. Ni quand les choses peuvent arriver. C'est la sérialité participe de ça. C'est-à-dire que quand les choses arrivent de manière sérielle, elles peuvent arriver n'importe quand et viser n'importe qui, et n'importe qui devenant métonyme de la totalité.
Et le problème, c'est qu'il y a une surenchère dans le terrorisme. Parce qu'on s'habitue malheureusement à tout. Et d'ailleurs, on le voit dans des pays qui sont beaucoup plus frappés que nous par les attentats, comme l'Irak, la Syrie, des pays du Moyen-Orient. C'est pas encore le cas. On s'habitue à tout. Donc il y a une surenchère et une concurrence entre organisations terroristes. Et donc le prochain attentat doit taper plus fort, doit être plus spectaculaire, doit être plus graphique. Évidemment, le 11 septembre est un modèle indépassable. L'État islamique a tenté le 13 novembre. Devait être le 11 septembre de l'État islamique, évidemment, en termes d'iconographie, c'est pas du tout du même niveau, mais c'était voilà une surenchère permanente.
Oui, Eisenzweig, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je pensais justement à Conrad.
Oui.
Alors là, je vais pas m'avancer en suggérant un parallèle, mais quand même, dans l'agent secret de Conrad, donc publié en 1907-8. l'acte revendiqué par la, ou plutôt l'incitation à l'acte, ce sera la destruction, et c'est une référence à un attentat qui avait effectivement eu lieu, ou plutôt qui avait effectivement échoué en 1894, qui serait un attentat contre l'observatoire de Greenwich. Mmh. Il joue un rôle principal, central dans l'agent secret, et
qui donne la, le temps
l'observatoire de Greenwich effectivement organise l'espace et le temps moderne tel que nous les comprenons. Et donc un attentat contre l'observatoire de Greenwich, il y a quelque chose comme une sorte de destruction de la condition même du récit.
Mmh. C'est-à-dire du temps,
un temps et un espace organisé et compréhensible. Et je trouve ça fascinant de penser au 11 septembre et au World Trade Center comme deux tours. Je dirais pas qu'elles organisent l'espace, mais il y a un côté similaire. J'y ai jamais pensé, je viens d'y penser.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a dans les années 90 qui vont conduire, enfin juste avant le 11 septembre, il y a la transparence, il y a l'augmentation de la transparence, il y a une révolution de la communication qui est un peu similaire sur un mode planétaire à ce qui s'est passé en France dans les années 1870-1890 avec le développement de la presse. Et un peu avant le 11 septembre, il y a cette angoisse Y2K, comme on l'appelait, l'angoisse de l'an 2000, l'angoisse d'une catastrophe qui ne va pas se produire, mais qui se produira d'une certaine manière au moment du 11 septembre. C'est-à-dire que tout se passe comme si plus on va vers la transparence collective, plus il y a une sorte d'appel d'air d'événements inexplicables, terrorisants, qui peuvent toucher potentiellement n'importe qui. La question de la sérialité est importante là-dedans, parce qu'elle vient. La sérialité, c'est aussi le hasard. Ça peut se produire plusieurs fois, mais pas à des moments réguliers. Donc, il y a une perte des repères spatiaux et temporels qui joue une grande importance dans le phénomène terroriste. Et alors, Sylvie Lidberg, vous avez travaillé beaucoup plus sur le nazisme et sur Nuremberg que sur les attentats terroristes contemporains. Il y a à la fois des similitudes et des grandes différences. C'est-à-dire que on sait tous que dans les périodes totalitaires, quand le totalitarisme est d'État, la terreur est théoriquement cachée. Elle n'est pas montrée, elle n'est pas publicisée de manière évidente, par exemple. Mais en même temps, on sait ce qui se passe. L'information passe, et c'est cette façon de jouer avec il y a une forme de métonymie, les victimes sont, on sait qu'il y a des victimes, et le fait qu'elles soient désignées fait quand même régner un climat de terreur généralisé dans le totalitarisme, non?
Alors,
je demande de spéculer. Là,
oui, ouais. Absolument. si on raccroche cette question de définition à la question des procès, on s'aperçoit qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le type de construction narrative qui a été évoqué pour le terrorisme, et qu'en même temps, il y a une appréhension difficile de l'événement qui fait que le procès va permettre de construire un récit à partir d'une documentation et de donner de l'intelligibilité à cet événement. Et dans le cadre du procès de Nuremberg, cette intelligibilité, elle va venir essentiellement des archives de la documentation nazie. Et d'une certaine manière, les témoins seront vraiment là uniquement en rappel. Le procureur général des États-Unis, Jackson, véritablement veut construire tout son dossier d'accusation sur la documentation nazie, parce qu'il estime ses écrits seront peu contestables, beaucoup moins en tout cas que les témoignages. Et d'une certaine manière, les témoins viennent à l'appui, et ce sont pour l'essentiel d'ailleurs des témoins allemands. Donc ça, c'est une différence assez fondamentale, alors que pour le procès Eichmann, il est véritablement construit autour d'un récit polyphonique de témoins qui sont chargés beaucoup plus d'incarner l'événement, un événement qui est de plus en plus disjoint d'ailleurs uniquement des crimes qui sont reprochés à l'accusé Eichmann. Mmh. Et il y a ici, oui, la volonté de faire incarner par les témoins le récit de l'extermination des Juifs et de le détacher un peu du bloc de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Donc là, on a une fonction, une manière différente à la fois d'écrire l'histoire, d'accumuler des archives pour les historiens et de donner aussi une visibilité à des... oui, on sait ce qui s'est passé dans les camps, par exemple, en 45, mais d'une certaine manière, la parole et les témoignages vont quand même permettre d'ajuster du savoir au voir à la parole et quelque chose se construit aussi pour les générations suivantes. Plus tard, enfin au moins au procès de Jérusalem, l'histoire s'est déjà constituée, mais c'est de construire un récit qui déborde très largement celui du récit des crimes qui sont reprochés à l'accusé et de poser cette question qui incarne finalement cette tragédie. Et là, le choix est fait de la faire incarner par les témoins. Voilà. Si on va un peu plus loin aux premiers procès qui sont filmés dans le cadre de la loi Badinter, on arrive à un partage un peu différent entre l'écrit et la parole des témoins, d'autant plus que les premiers procès sont des procès dans le cadre desquels interviennent des historiens. Du point de vue des témoignages, ce qui change aussi, c'est la constitution des parties civiles. Et là, on est sur une échelle extrêmement différente. Le rapport à la parole n'est plus du tout le même. Il faut rappeler que les témoins étaient bousculés, ceux qui s'exprimaient à Nuremberg notamment, et qui se présentaient pas comme des victimes, mais des combattants, y compris les survivants des camps.
C'est le cas,
par exemple, de Marie-Claude Vaillant-Couturier. Quand elle vient à la barre, c'est une combattante. Elle poursuit un combat dans le cadre de l'enceinte judiciaire. Et même si elle est un peu malmenée, elle se défend. Mais il n'y a aucune sacralisation de la parole des victimes. Et elle ne se présente pas comme une victime.
Contrairement à ce qui se passe...
Mais bien comme une résistante.
Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où il y a une très grande importance donnée, et quelquefois même presque trop. En tout cas, c'est un vrai sujet. Il y a une victimisation de l'appareil judiciaire qui a d'ailleurs été pointée, il me semble, au début de ce procès-ci.
Qui dépasse la question du terrorisme.
Qui dépasse la question
du terrorisme. C'est une évolution de l'institution judiciaire.
Un des points que je voudrais soulever, c'est la question de la manière parce qu'on parlait du fait que l'acte terroriste n'est pas dissible en quelque sorte. On tourne autour quand on raconte des choses, mais on n'arrive pas au cœur du problème. Et c'est un des éléments auxquels se raccrochent les terroristes qui passent en procès. C'est-à-dire que les histoires, les parcours, on en parlait tout à l'heure sur Ensilo, les parcours des terroristes ou des gens qui sont impliqués dans les réseaux terroristes, on peut les raconter, ils les racontent eux-mêmes. Et il y a une forme de négationnisme qui se joue, qui se déploie dans la parole même des accusés ou des gens qui sont directement impliqués, quand ils disent eux-mêmes, mais on est des gens normaux. C'était particulièrement flagrant au moment où fonctionnait la propagande de l'État islamique. L'État islamique, c'est pas ce qu'on dit. L'État islamique, on va juste vivre notre islam comme tout le monde. Et la question de l'acte, du moment de la violence était évacuée par tous, alors même qu'ils regardaient des vidéos qui étaient les plus gores, qui marchaient vraiment bien en termes d'instruments de propagande. Il y a une espèce de paradoxe, là, de contradiction dans la constitution du récit de la violence qui est très étonnant. C'est-à-dire qu'ils ne revendiquent jamais leur violence au moment où elle est la plus séduisante pour eux.
Ils peuvent la revendiquer tout en la justifiant. Derrière un message politique. Et d'ailleurs, on peut considérer que les assaillants du 13 novembre et du Bataclan, eux-mêmes, en fait, se vivaient comme des soldats. C'est-à-dire qu'ils considéraient, de leur point de vue, qu'ils répondaient au bombardement de la coalition internationale qui frappait Daesh en Irak et en Syrie, et que ne pouvant pas faire tomber les drones et les avions sur place, ils allaient porter la guerre chez leurs agresseurs. Bon, après, il y a eu un focus sur la France qui est explicable par mille autres raisons qui datent de l'époque Al-Qaïda, avec l'affaire des caricatures de Mahomet. Enfin, la France est rentrée dans le viseur des organisations terroristes pour des raisons indépendantes de ces opérations militaires extérieures. C'est ça le paradoxe du focus sur la France et des organisations terroristes, c'est que c'est le seul pays qui est véritablement visé, pour le coup, pour des questions de valeur. Mais le 13 novembre est quand même justifié par l'intervention occidentale en Irak et en Syrie et par la participation de la France à cette coalition. Et c'est ce qu'a dit Salah Abdeslam quand il a pris la parole. Il a fait un assez long déroulé, assez cohérent, assez construit, où on ne trouvait pas de référence religieuse. D'ailleurs, c'était intéressant. Il n'a pas cherché à théologiser sa prise de parole. Il s'est adressé à la cour et aux parties civiles. véritablement en leur disant « ce n'est pas vous qui étiez visé, c'était la France ». Il leur a expliqué pourquoi, de façon assez simple, en recrachant la propagande djihadiste qui est que ces attentats sont une réponse au bombardement. En vrai, cette parole est intéressante, mais elle se décrypte aussi, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en vérité, l'État islamique avait déjà projeté des projets d'attentats visant la France ou la Belgique. Il y a eu l'attentat du musée juif de Bruxelles, qui précédait la constitution de cette coalition militaire internationale. Donc la menace existait déjà.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, Salah Abdeslam a dit une phrase clé dans cette déclaration. Il dit « on a visé la France, mais ça n'avait rien de personnel ». C'est-à-dire que les gens qui sont morts n'étaient pas spécifiquement visés comme individus, ils étaient fixés. On parlait de la métonymie tout à l'heure. Donc leur individualité est niée, en quelque sorte, au moment où ils sont tués. À Genzweig, vous parlez, vous utilisez l'expression dans le livre, le terrorisme, c'est la propagande par le fait, c'est-à-dire que c'était la phrase des anarchistes, c'est-à-dire que l'acte devient une forme de langage, mais détruit en même temps le langage habituel. On a l'impression, quand on écoute Salah Abdeslam, par exemple, et d'autres, que c'est pas, en l'occurrence, l'idéologie qui justifie la terreur, mais que c'est la terreur qui légitime a posteriori l'idéologie. C'est à cause de la violence que le discours devient, d'une certaine manière, important, sinon crédible. Il faut l'écouter parce qu'il y a eu violence.
Oui, en fait, parce qu'il y a eu spectacle. Alors, la propagande par le fait... c'était une idée anarchiste qui a duré 2 ans, entre 81 et 83, qui a été donc désavouée, mais qui est devenue, qui est restée associée à ces anarchistes, malgré eux, et qui implique une sorte d'impuissance du langage. Mm-hmm. C'est-à-dire l'incapacité, il y avait eu quelques événements, quelques tentatives, je passe dessus, dans l'histoire de l'anarchisme, et donc l'impossibilité de convaincre assez de gens. Il y a eu cette théorie, il faut un acte qui attire l'attention sur le message. Donc le message est accessoire à l'acte, et l'acte, pour attirer l'attention, doit être justement, doit en fait, finalement, être dépourvu de sens. Moins il y aura de sens, et ça c'est ce que vous citiez avant de l'agent secret de Conrad, plus il sera absurde, plus il attirera l'attention de la presse.
Et plus donc, il aura une signification.
Le terrorisme naît à ce moment-là avec l'idée d'un acte et qui sera évidemment violent, qui attirera l'attention, qu'on ne comprendra pas et qui aussi suscitera la peur de la série, etc., ce que vous avez dit avant. Moi, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, et ça, j'y avais jamais pensé, en écoutant Sylvie Linderberg et vous, c'est le parallèle entre le nazisme et le terrorisme comme deux phénomènes où on se heurte à la difficulté de comprendre.
Oui.
Alors, évidemment, c'est un autre, et ce n'est pas de la même manière, mais c'est quand même intéressant qu'au centre, au cœur de notre univers ou de notre imaginaire social, aujourd'hui, depuis 70 ans peut-être, il y a une incompréhension, il y a un phénomène qui nous fascine parce qu'il échappe à notre compréhension. Mmh. Parce que le nazisme, finalement, dépasse, il y a quelque chose dans les récits du nazisme, de ce qui s'est passé, oui, et des motivations, qui laisse quelque chose d'incompris, d'incroyable. Il y a un dépassement donc de la compréhension éventuelle, et je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est-à-dire c'est comme un besoin dans notre société aussi de... une peur de ne pas comprendre.
Un des éléments que vous racontez dans le livre, Soren Sillo parlait de la France attaquée pour des questions de valeurs. Dans le livre, dans la fiction de l'anarchisme, vous insistez à un moment donné sur l'aspect spécifiquement français de la problématique et vous rappelez que l'ère des attentats a lieu précisément au moment où la modernité française a substitué le récit à la révélation comme forme de vérité. Il y a toute la progression de l'historiographie à l'université, mais surtout il y a la Troisième République. Et la représentation causale, événementielle et linéaire du passé de la société française qui s'impose comme le modèle formel de légitimation de son présent. En clair, c'est le moment où la France se couvre de statuts, où les programmes scolaires se structurent, les commémorations se multiplient, etc. C'est-à-dire que l'héritage des Lumières est mis en avant à ce moment-là, et c'est à ce moment-là que quelque chose de l'ordre de la destruction du langage est mis en acte, et pas seulement par les anarchistes. C'est-à-dire, vous soulignez le rapprochement entre certains anarchistes et certains monarchistes dans le refus non seulement de la représentation politique, mais de toute possibilité de représentation de soi, et donc la recherche d'une destruction vraiment du langage au sens où le langage est un s'inscrit comme est l'instrument de la raison, en fait.
Oui, d'ailleurs, du point de vue historique, il faut quand même souvenir, 1889, le centenaire de la Révolution, il y a un sentiment d'histoire, et puis l'histoire s'impose comme la discipline majeure, et qui reste jusqu'aujourd'hui une discipline qui est très très fortement identifiée à la France, ailleurs, je veux dire par exemple aux États-Unis, mais c'était à ce moment-là, la revue historique, Monod, Seigneur Bosse, Lavis dans les écoles, etc., c'est ce moment-là, oui. Ce que je trouve d'ailleurs fascinant, quand on pense aux ce qu'on appelle les terroristes, et j'ai toujours un problème avec le mot aujourd'hui, quand on pense aux fondamentalistes religieux,
oui.
Il y a quand même un parallèle fascinant avec, oui. avec l'anarchiste. Alors, il y a trois éléments, je trouve, qui vraiment rapprochent les deux en une symétrie, c'est-à-dire ils sont pas du tout les mêmes, c'est le contraire même. Le rapport à l'autorité, ou l'importance de l'autorité. Dans un cas, c'est le rejet de toute autorité. Dans l'autre cas, c'est la référence à l'autorité absolue. Et puis, il y a aussi le rêve d'un univers tout à fait autre, mais qui est passé pour le religieux et qui est à venir pour l'anar. Et il y a le rejet de la représentation. Alors, le rejet de la délégation du pouvoir et de la représentation politique chez l'anarchiste, mais regardez un peu le rejet de la représentation de l'autorité de Mahomet.
Et le rejet de la représentation tout court chez les islamistes radicaux, oui. Vous parlez dans le livre on va finir là-dessus parce qu'on arrive au terme de cette émission. Vous parlez d'une sensibilité qui est proche d'une vision d'identité ancestrale, nationale ou raciale, comme d'une pure immanence souillée par l'expression profane séculaire. Et c'est cette sensibilité qui va alimenter la recherche de la violence. On va être obligé de s'arrêter là. Merci à tous les trois pour votre participation dans cette émission qui a essayé de faire le point autant que possible sur un sujet extrêmement compliqué. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Jacques Hubert et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
L'influence et le soft power compliqué des casques bleus français au Liban.
Sur France Culture, soft power, Frédéric Martel.
J'ai passé plusieurs jours avec les soldats de la paix français au sud Liban. On parle rarement d'eux. Ils sont en permanence 700 soldats sur place qui se relaient depuis 1978. Dimanche, France Culture leur donne la parole.
Soft Power, le dimanche à 18h10 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture présente le festival Play It Again.
Don't drag me into your gutter, Mr. Anderson.
Redécouvrez les films d'hier dans les salles d'aujourd'hui à travers une sélection des plus beaux classiques en version restaurée. Au programme, un focus sur 10 films d'aventure, des avant-premières, des conférences, des ateliers et des ciné-concerts. Play It Again, jusqu'au 28 septembre, à vivre dans près de 300 salles dans toute la France. un partenariat France Culture.
Et tout de suite, une histoire particulière avec Christine Bernard.
Une histoire particulière. Débarquée à Marseille en 1968, Hamida Djendoubi n'avait jamais quitté sa Tunisie natale. 3 ans plus tard, un accident à l'usine le prive d'une jambe. Brisé, le Tunisien ne tarde pas à devenir une brute et embrasse une activité de proxénète. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1974, il fait subir à Elisabeth Bousquet une longue séance de torture. L'agonie de la malheureuse n'en finit pas. Son corps sera retrouvé par des enfants quelques jours plus tard. Le 25 février 1977, Hamida Djendoubi est condamnée à mort pour assassinat après torture et barbarie, viol et violence avec préméditation. Aujourd'hui, Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier reviennent sur son procès et son exécution. Attention, certains détails peuvent choquer les oreilles sensibles.
La ville de Marseille était encore endormie quand le condamné à mort, Hamida Djendoubi, 28 ans, attendait son exécution assis sur une chaise pendant 20 minutes face à près de 30 personnes, aux fonctionnaires de police, face aux gardiens, ses avocats, Maître Pollack et Goudarot, face à la mort, ici, à la prison des Baumettes.
Le 9 septembre 1977. Exécution capitale de Djendoubi. Sujet tunisien. À 15h, Monsieur le Président de la juridiction de Marseille me fait savoir que je suis désigné pour y assister. Réaction de révolte, mais je ne peux pas m'y soustraire. Je me prépare. Une voiture de police vient me chercher à 4h15 du matin. Pendant le trajet, nous ne prononçons pas un mot.
Hamida Djendoubi, votre recours en grâce a été rejeté. Soyez courageux.
Hamida Djendoubi, une toute dernière peine. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy.